Les éditions de l'AFMSH présentent le numéro 152 de la revue Les Nouvelles de l'archéologie. Écologie historique. Un dossier coordonné par Stéphane Rostin et Geoffroy de Saulieu.
Bon, je m'appelle Stéphane Rostin, je suis archéologue et je travaille depuis 35 ans en Amazonie, où j'ai fait mes débuts en Guyane française. Et c'est dès mes débuts que j'ai été finalement capté par l'approche en écologie historique, puisque quand je suis arrivé en Guyane, il était de bon ton de dire qu'il y avait très peu de vestiges des populations amazoniennes. Il y avait très peu d'archéologues à l'époque qui travaillaient sur l'Amazonie. Donc c'était un milieu mal connu et puis encore vu avec beaucoup de préjugés. Et à un moment, j'ai eu envie de faire des repérages en archéologie aérienne et tout le monde m'a déconseillé de le faire puisque de toute façon, vu le couvert forestier, on n'avait aucune chance de trouver des restes anthropiques au sol. Mais comme toujours, il faut vérifier les assertions et donc j'ai fait quand même mes survols et là j'ai découvert des milliers de structures, non pas sous la forêt, mais dans les marécages, les aires ouvertes de l'Amazonie, les marécages qui bordaient le littoral atlantique en Guyane française. Donc c'était en l'occurrence des champs surélevés, des buttes disposées de façon géométrique dans ces marécages et qui étaient par milliers. Et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être changer notre regard, notre angle de vue sur cette forêt, sur ses premiers habitants, et peut-être se débarrasser de notre costume d'Européen, d'Eurocentrique, en tout cas pour essayer de mieux comprendre le passé de cette forêt à travers des restes parfois discrets, voire invisibles. Parallèlement, à sa même époque, dans les années 80, des géographes, des ethnologues développaient des idées sur l'impact de l'homme dans la forêt, notamment les premiers habitants qui auraient influencé, impacté, transformé le faciès même de la forêt en favorisant certaines espèces, en empêchant d'autres espèces, en domestiquant ou semi-domestiquant des plantes, montrant que finalement le visage actuel de la forêt amazonienne résulte de ces multiples transformations, multiples impacts anciens de l'homme sur cette forêt. Et de là est née peut-être l'idée de l'écologie historique en Amazonie, qui consiste à ne plus voir cette forêt sur un arrêt sur image, qu'on a toujours fait en tant qu'ethnologue ou archéologue, mais de regarder cette forêt sur le temps long, sur son évolution, sur ses changements, sur ses modifications, et donc de prendre en compte le long processus de transformation plutôt que l'image qu'on a aujourd'hui de cette forêt. Et c'est ce qui caractérise peut-être le plus l'approche en écologie historique qui a développé des méthodologies, des concepts particuliers, des méthodologies notamment l'interdisciplinarité. C'est plus une science qui va s'intéresser à comprendre le passé anthropique et naturel de la forêt, mais bien une association de plusieurs sciences. Et cette adoption, j'ai envie de dire, de nouveaux concepts a complètement révolutionné notre entendement de la forêt tropicale d'Amazonie et a révolutionné, entre autres, l'archéologie. Et depuis 30 ans, l'archéologie a fait des pas de géant grâce à cette écologie historique. Et petit à petit, cette approche a été adoptée dans d'autres régions du monde, notamment les régions tropicales, comme par exemple l'Afrique, où Geoffroy de Saulieu travaille.
Absolument. Alors, merci pour cette transition. Je suis archéologue à l'IRD. Et j'ai commencé à travailler il y a dans le début des années 2000 en Amazonie où, grâce à des rencontres de collègues comme Stéphane Rostin, j'ai découvert l'écologie historique qui était déjà pratiquée. Depuis les années 2011-2012, je travaille en Afrique centrale où je me suis rendu compte que ce courant de recherche n'était pas du tout développé. Alors qu'il y a de grandes analogies entre le milieu amazonien et la forêt d'Afrique centrale, qui est le deuxième plus grand massif forestier du monde après l'Amazonie. Alors, il y avait déjà des prémices de cette perspective de recherche en Afrique centrale, mais pas du côté des archéologues. il y a des exploitants forestiers qui s'interrogeaient sur le renouvellement des stocks de bois précieux. Et ils se rendaient compte que ces arbres ne poussaient pas dans des forêts fermées. Pourtant, il y avait des stocks matures qui étaient présents en plein cœur de la forêt. Il y a également un vieux débat sur l'existence de ces savanes incluses qui sont prises dans des massifs forestiers dont on ne connaît pas l'origine. Et depuis le début du XXe siècle, il y avait des débats entre écologues et géographes pour savoir si ces savanes étaient d'origine anthropique ou naturelle. Alors, l'écologie historique a un petit peu de mal à se développer en Afrique centrale parce que dans les années 80-90, il y a eu un très grand essor des sciences paléo-environnementales. Et ces sciences ont apporté des résultats très importants, mais qui focalisaient l'histoire du paysage sur les variations naturelles et notamment climatiques. Si bien que pendant peut-être 20 ou 30 ans, on a interprété les données de ce point de vue-là. Car on voit qu'il y a eu des variations dans l'histoire du massif forestier d'Afrique centrale, mais on n'a jamais réellement pris au sérieux la possibilité que ces variations pouvaient être au moins en partie d'origine anthropique. Donc voilà l'enjeu actuel de l'Afrique centrale et on s'inspire énormément des travaux qui ont été mis au point en Amazonie. À l'origine de l'écologie historique, il y a une réflexion qui a d'abord été faite par des anthropologues et des géographes et que ça n'est que par la suite finalement que les archéologues se sont greffés à cette démarche. Je ne sais pas si Stéphane est d'accord avec moi.
Oui, les archéologues sont venus assez vite sur ce terrain-là, parce qu'on est arrivé à des impasses en Amazonie où il n'y a pas de grands temples de pierre comme dans les Andes ou en Mésoamérique. On est un peu face à quelques tessons et quelques pierres. C'est difficile de reconstituer des millénaires d'histoire humaine. Donc très vite, les archéologues ont été séduits, enfin en tout cas ceux qui n'étaient pas satisfaits des résultats de l'archéologie du XXe siècle en Amazonie ont été très vite séduits par une approche qui englobait beaucoup plus largement les différents indices permettant de reconstituer ce passé humain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, évidemment, nous avons été assez peu nombreux à suivre cette voie. Maintenant, elle est beaucoup plus populaire. Et Geoffroy a parlé des climatologues qui ont longtemps dominé par leur discours la science de l'Afrique centrale. C'est amusant de voir qu'aujourd'hui, ces mêmes climatologues viennent chercher les archéologues et l'écologie historique pour essayer de comprendre les changements climatiques eux-mêmes, puisque l'humain a eu des influences, et on le voit bien aujourd'hui. Les grands changements climatiques actuels sont en partie induits par les actions humaines sur le globe. En tout cas, c'est sûrement une vision plus intéressante que cet arrêt sur image qu'on a, dont je parlais tout à l'heure. Et on s'aperçoit que maintenant, dans ce numéro des nouvelles de l'archéologie sur l'écologie historique, que la moitié des auteurs donc parlent des terres tropicales, amazoniennes, africaines et Asie du Sud-Est. L'autre moitié parle de la France et du bassin méditerranéen, où aussi cette approche a convaincu, surtout que les paysages européens sont domestiqués entre guillemets d'une autre façon, mais on peut lire aussi l'histoire de l'homme à travers les paysages des pays tempérés. En France, on peut voir le passage des Gaulois, des Gallo-Romains, des médiévaux, etc. On peut lire, vraiment suivre à la trace l'histoire de ces paysages. Il ne faut pas croire que systématiquement les dernières traces effacent les précédentes, mais il y a une accumulation donc de données qui fait qu'on peut retracer cette histoire. Et donc c'est intéressant de voir comment elle est menée en Europe. Le plus étonnant, c'est que tous ceux qui a adopte l'approche en écologie historique s'intéresse plutôt aux forêts qu'aux autres types de milieux. Dans le numéro donc des nouvelles de l'archéologie, c'est essentiellement les aires forestières qui sont traitées, puisque c'est celles qui gardent peut-être l'empreinte la plus parfaite du passage de l'homme.
Je voudrais rebondir sur ce que dit Stéphane. La grande différence de l'écologie historique avec l'histoire environnementale, c'est qu'on s'intéresse, comme dit Stéphane, à une empreinte. C'est-à-dire que l'écologie historique est une démarche régressive qui part du présent. On cherche dans le présent les traces du passé. Alors que l'histoire environnementale est une démarche qui déplace le curseur de la recherche sur l'échelle chronologique et s'intéresse à l'état du paysage à un moment donné. Nous, on s'intéresse au paysage en tant que millefeuille. Et c'est très important aujourd'hui, autant dans les régions tropicales que dans les régions tempérées, de faire ce distinguo, parce que finalement, il n'y a que l'écologie historique qui peut être un outil utile pour la gestion des écosystèmes actuels. Ces écosystèmes, aujourd'hui, sont, comme on le sait, fragilisés, ils sont en danger, on s'interroge sur leur évolution future. Et le fait de leur donner une histoire régressive permet de montrer que le paysage est plastique, qu'il est une création humaine. Elle permet probablement un petit peu de dédramatiser, puis surtout d'avoir une vision plus optimiste du futur. Il y a des solutions qui ont été trouvées dans le passé. La présence humaine n'est pas forcément, par exemple, synonyme de destruction du massif forestier.
Alors, l'autre intérêt de l'écologie historique, c'est qu'elle est non seulement une science fondamentale, ce qui est essentiel évidemment dans les avancées scientifiques, mais elle est aussi une science appliquée puisqu'elle offre des solutions à des problèmes tout à fait actuels, comme par exemple les problèmes qui se posent aujourd'hui de nourrir cette population mondiale qui ne fait que croître. L'agriculture industrielle ne suffit plus à subvenir aux besoins croissants de cette population, et on cherche désespérément des alternatives. Alors ces alternatives, on va les trouver où ? Eh ben, pas forcément dans les bureaux des scientifiques ni dans chez les théoriciens, mais parfois dans des domaines et des aires qu'on ne soupçonne pas et qui commencent à apparaître. Ce sont parfois les populations autochtones, les populations tribales, qui ont eu à gérer elles aussi des crises climatiques, des crises environnementales depuis des millénaires, et qu'on n'a peut-être pas su pendant longtemps observé à sa juste valeur, avec un peu l'arrogance du scientifique qui pense que les chiffres solutionnent tout. Parfois, les populations plus restreintes, plus forestières, moins connues, ont su gérer et ces crises de façon souvent magistrale. Et je crois qu'on commence à en voir les conséquences dans, par exemple en France, où des agricultures de permaculture, d'agroforesterie, où des agricultures alternatives commencent à se développer localement à plusieurs endroits et montrent qu'il y a des solutions parfois plus ponctuelles que de vouloir globaliser la réponse par l'industrie ou par la masse. Peut-être que la réponse à nos problèmes est individuelle beaucoup plus que collective.